Voilà, mais écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous ce week-end. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, c'est sympa d'être de retour dans la région parisienne et de découvrir cette région. En fait, je n'ai jamais été ici. Par contre, je connaissais des églises de la 8 dans la région. Donc, c'est sympa d'être ici et d'avoir pu être avec vous. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de terminer le message ce matin, parce que je vous ai laissé un petit peu la et ensuite, je vais essayer de répondre, poser plusieurs questions et les répondre. Ensuite, on va avoir temps de questions-réponses, j'espère que ça pourra éclaircir certains points. D'accord? Donc, on va réviser, d'accord? Par contre, je sais très bien que c'est après le repas de midi, dimanche, on est fatigué, d'accord? On va essayer d'être un petit peu interactif. Mais on va quand même réviser, d'accord? Donc, dans la première partie, si vous étiez ici, donc, hier soir, nous avons essayé de comprendre l'historique du rôle de la femme quelque part dans la Bible, et on a regardé en premier dans Genèse 1 et 2 le fait que Dieu a créé l'homme et la femme tellement égaux, mais différents aussi dans leur service l'un envers l'autre. D'accord? Vous avez quelque chose comme ça. Et on a vu que le péché a tout changé et a renversé le rôle de la femme et de l'homme, et c'est là que ça crée les conflits, et même les conflits qu'on voit aujourd'hui entre hommes et femmes, le changement de rôle, etc. Et ensuite, on a vu que c'est en Jésus-Christ qui nous parle de nos péchés, qui nous permet de retrouver le plan de Dieu qui est écrit dans la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui est dans nous et par sa parole, et que soudainement, l'homme veut être l'homme de Dieu que Dieu a décrit dans la Bible, la femme veut être la femme de Dieu écrit dans la Bible, et donc on retrouve le rôle de la femme et de l'homme comme il s'est trouvé quelque part, si on veut dire comme ceci, dans le jardin d'Éden. Au niveau familial, mais aussi au niveau de l'Église, on trouve ce que le Seigneur veut pour nous. Donc ce matin, ensuite, on a continué, et on est allé voir, et là on peut y retourner dans 1 Timothée 2, ces versets clés, ces versets qui sont parmi les plus, comment dire, les plus utilisés pour le débat sur le rôle de la femme dans l'Église, dans 1 Timothée chapitre 2, d'accord? Donc je vais relire ces versets, comme ça nous retrouve en contexte. Au verset 9, 1 Timothée 2, 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc, premièrement, elle a décrit les saints traits d'une femme de Dieu, d'une femme d'église. Premièrement, elle a vu une apparence modeste, donc c'est ce qu'on a vu. Ça ne veut pas dire que ces choses sont interdites, mais on a vu que dans l'église, le but, c'est que l'attention soit mise sur le Seigneur et pas sur nous, pas sur nos habits, ni sur notre richesse, nos bijoux et tout ça. Donc ça, c'était la première chose, une apparence modeste au verset 9. Ensuite, au verset 10, « Mais quelque part de bonnes œuvres, il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » On a vu, deuxièmement, qu'elle est une femme avec une activité exemplaire. Verset 10, que je viens de lire, « Des bonnes œuvres ». Elle est connue pour ses bonnes œuvres, pas pour son look. D'accord. Troisièmement, on a vu qu'elle est aussi connue pour son écoute attentive. Verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et donc, on a vu ce que ça voulait dire, que dans un contexte d'église, lorsque les hommes sont réunis, eh bien, le rôle de la femme, c'est un rôle d'instruction. Et ça, c'était un pas en avant par rapport au judaïsme qui interdit même aux femmes d'entendre ces choses. Elle pouvait écouter l'instruction et avec une attitude de soumission. D'accord? Et ensuite, quatrièmement, elle a une humilité honorable, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, on a expliqué ce que ça voulait dire, ça veut dire exactement ce que ça veut dire, d'accord? Et là, on s'est posé la question, mais est-ce que ça veut dire qu'une femme ne peut jamais enseigner? On a dit, non, bien sûr qu'elle peut enseigner, mais il y a des conditions ici, pas d'homme dans une réunion publique qui lui donnerait l'autorité. D'accord? Alors, elle pourrait enseigner d'autres femmes, si on l'a vu dans Tite 2, elle peut enseigner des enfants, elle peut même, dans un effort d'équipe homme-femme, dans le contexte hors église, elle peut faire de l'évangélisation, il y a plein de trucs qu'elle peut faire, elle peut à la limite enseigner à l'extérieur de l'église aussi, elle peut avoir un don d'enseignement, même de leadership, mais dans l'église, c'est très spécifique ce que Dieu veut. Dans l'église. Et voilà, c'est 13. On a vu qu'Adam, il donnait raison, qu'Adam a été formé le premier et ensuite Ève, et Adam n'a pas été séduit, mais sa interdit qu'on parle de transgression. Et là, il donne deux raisons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne deux raisons avant la chute. Avant la chute. Donc, ça ne peut pas être culturel ici. Puisqu'il donne des raisons qui n'ont rien à voir avec la culture. Les raisons qu'il donne sont créationnelles. D'accord? Créationnelles. Donc, il est en train de dire que, bah, puisque Adam a été formé en premier, puis Ève, et puisque c'est Adam qui a été, que la femme a été séduite avant l'homme, eh bien, ça demande que la femme ait ce comportement qui est décrit ici. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est les raisons données par l'apôtre Paul. Donc, la question, alors, maintenant, c'est comme ça que je termine ce matin. Mais alors, la femme doit-elle se considérer un membre de la famille ou un membre de l'église seconde classe? Et une femme pourrait dire, bah, c'est du jeu, quoi. Moi, alors, mais tout ça, mais tous ces goûts devant Dieu, mais je n'ai pas le droit d'enseigner, je n'ai pas le droit d'avoir une autorité sur l'homme. C'est les hommes qui ont le droit d'avoir l'autorité, les hommes qui ont le droit d'enseigner. Bah, est-ce que c'est juste? Alors, tu diras, oui, c'est juste. Parce que la Bible enseigne ici, mais est-ce que ça veut dire que je suis relégué à être une personne de seconde classe? Ça. Est-ce que je suis un peu quand même inférieur aux hommes? Alors, bien sûr, comme on l'a dit, c'est ce que les féministes veulent vous faire croire. Vous êtes seconde classe. Enfin, moi, je réponds toujours à ce. J'ai déjà donné cette illustration. Si je vous écoutez, moi, en tant qu'homme, je ne peux pas avoir de bébé. Pas possible. Est-ce que ça veut dire que je suis donc une personne de seconde classe? Non, ça n'a rien à voir. C'est simplement que ce n'est pas pourquoi Dieu m'a créé. Moi, je ne peux pas avoir de bébé, c'est pas possible. Ma femme peut. Ok, ben, on est différents. Elle a un privilège que je n'ai pas. Moi, je n'ai plus elle, elle n'a pas. C'est parce que le rôle se différencie. C'est tout ce qu'on est en train de dire ici. D'accord? Alors, est-ce qu'elle est une personne de seconde classe? Enfin, bien sûr que non. Mais c'est là où le verset 15 est très intéressant. Regardez ce qu'il dit. Donc, je recule. Il dit, je ne permets pas. Verset 12, la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme et elle doit demeurer dans le silence. Il donne des raisons. Car Adam a été formé le premier et ensuite, Adam n'a pas été séduite, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alors, il est quand même intéressant ce verset. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, elle sera néanmoins. Alors, le petit mot néanmoins est intéressant parce qu'il fait un contraste avec ce qui est dit juste avant. Alors, on pourrait dire que ceci, la marque noire qui repose sur la femme, d'avoir plongé la race humaine dans le péché est une réalité. C'est ce qu'il dit juste avant, verset 14. Il dit, le problème, c'est que la femme a été séduite avant l'homme. Alors, elle pourrait dire, oh mince, c'est toute ma faute. Elle pourrait dire, puisque c'est moi, c'est la femme, Ève qui a péché avant Adam, donc c'est une sorte de marque noire sur la femme. Donc, voilà, on est seconde classe. Mais, Paul nous dit au verset 15 qu'il y a un remède qui lui permet de retrouver sa dignité. Si c'est vrai qu'elle a péché avant l'homme, ça ne veut pas dire que c'est une femme de seconde classe par rapport à ce verset. Il dit, néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère? Je ne sais pas si vous connaissez ce verset, si vous avez réfléchi à ça. D'accord? Alors, il y a plusieurs interprétations. L'interprétation christologique dit ceci, c'est ce que certains disent. La femme est sauvée du stigmate négatif d'avoir plongé l'humanité dans le péché par le fait que c'est également par la femme que Christ est venu offrir le salut aux hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème du péché vient de la femme, mais la solution, Christ, vient également de la femme. Par ce biais, sa dignité est retrouvée. Ça, c'est une interprétation. Dieu a promis à être l'incarnation d'un vrai par son lignage, et de ce fait, elle est devenue mère du Messie. La postérité d'elle écraserait le serpent, se référant donc à Christ. L'enfantement du verset 15 serait donc pas une référence à l'enfantement en général, mais à Christ qui devait venir. Donc, ça, c'est une option. L'autre option, et certains disent ça au premier degré, ils disent Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ça n'a rien à voir avec le salut de son âme. On ne devient pas sauvé en étant maman. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un bébé qui lui a sauvé spirituellement parce qu'elle a eu un bébé? Non, c'est ridicule. Ça ne va pas être ça. On est sauvé comment? Par la grâce, par le biais de la foi, c'est tout. Éphésiens 2. Donc on n'est jamais sauvé en ayant des bébés. Vous restez ouvert à ça. Alors, je vous donner ce que je pense est juste. C'est ce que j'appelle l'interprétation biologique. La femme est sauvée. Alors, sauvée, c'est-à-dire préservée de l'empreinte négative d'avoir plongé l'humanité dans le péché par le privilège de pouvoir mettre des enfants au monde et de les élever dans le Seigneur afin de produire une génération pieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot sauvé ici veut dire d'un côté, hein, on utilise je suis sauvé en Jésus-Christ, c'est parce que la manière qu'il est utilisé ici. Ici, c'est l'idée de secourir ou libérer ou délivrer. Donc, Paul n'est pas en train de dire qu'elle est sauvée spirituellement en ayant des enfants, mais ce que Paul fait une référence à Ève ou à Marie, comme la première interprétation le suggère, rien en texte le suggère. Ce que Paul semble dire, c'est que, maintenant voici la clé, c'est que même s'il est vrai que la femme a été responsable d'avoir plongé l'humanité dans le péché, elle peut être préservée de cette empreinte négative de cette réalité dans sa vie par le biais de la maternité. C'est par le privilège qu'elle a de pouvoir mettre des enfants au monde et de pouvoir les élever dans la foi qu'elle se dégage du stigmate de la marque, de la cicatrice d'avoir amené la race humaine dans le péché. Donc, en résumant, ses enfants, sa modestie, sa foi, son amour, sa sainteté, ses traits deviennent son plus grand honneur et passent en quelque sorte le stigmate du passé. Donc, une maman, une femme, a un immense privilège qu'un homme n'aura jamais. C'est le pouvoir de mettre les enfants au monde et le pouvoir les élever dans les voies du ciel. Ça, c'est un privilège. Alors, le mari est là pour aider. Moi, je me rappelle très bien, quand les enfants étaient nés, moi j'étais là, puis je devais être utile, quoi. Je devais être utile. Alors, il y avait une bouteille d'eau, et quoi, à la fin, je lui donnais de l'eau. Alors, je me sentais, mais complètement nul, quoi. J'étais là, avec moi, ma bouteille d'eau, puis c'est elle qui souffrait, c'est elle qui mettait ce début au monde, et puis c'était dur, c'était compliqué, et tout, c'est tout. Moi, j'étais là à rien faire, quoi. Et puis, une fois que le bébé est né, ben voilà, c'était comme tu dis toujours, ben, c'est l'agonie, et ensuite, c'est l'âge mort. Et ça, c'est un privilège qu'une femme peut avoir, l'homme peut connaître la chance. Et c'est ce qui est en train de dire ici. La femme a un privilège que l'homme n'aura jamais, c'est d'être maman, si Dieu lui permet d'être maman, et c'est ensuite de pouvoir élever ses enfants dans le Seigneur. Rien ne garantit qu'il marche en intérieur. Mais c'est sa vie qui est donnée à cette fin. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, il veut ici honorer les femmes qui pourraient se sentir frustrées par ce qui s'est dit juste avant. Non, elle est vraiment dotée d'un immense privilège. Alors, comment est-ce que je conclue sur tous ces versets 12 à 15. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés égaux, humainement et spirituellement. Mais Dieu les a aussi créés avec des rôles différents. Que la femme se donne à ce pourquoi elle a été créée, d'aider son mari, d'encourager des enfants, si Dieu lui donne des enfants, et de les élever dans le Seigneur, et ainsi cultiver en eux une génération pieuse qui aime le Seigneur. Voilà le rôle premier d'une femme et d'une mari. Si une femme n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants, ce n'est pas un problème. Parce que dans 1 Corinthiens 7, Paul pensait que les célibataires avaient de plus grandes capacités de service pour le Seigneur du fait qu'ils ont plus de temps et sont moins distraits. Donc, si c'est votre cas, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfants, ça c'est un don aussi de Dieu. C'est-à-dire, ça vous donne plus de temps pour servir le Seigneur. Tout le monde l'accepte pas comme ça, mais ça c'est la pure et simple réalité si on lit 1 Corinthiens 7. Le mariage a des points négatifs. Il dit dans le magasin, celui qui est marié ben, il doit donner à 50% de son temps à sa femme quelque part. Tu ne peux pas larguer ta femme et faire un ministère tout, 100%, c'est pas possible. Peut-être que tu as des enfants, et plus tu as d'enfants, plus ça prend du temps, c'est la galère, c'est compliqué, c'est cher. C'est, vous savez, les familles, c'est pas toujours facile. Comme vous le savez peut-être, vous êtes mariés, vous avez des familles. Et des fois, ceux qui sont dans les familles, mariés d'enfants, des fois, dans les moments compliqués, difficiles, on dit ah, ça serait quand même pas mal d'être célibataire. Hein. C'est pas mal d'avoir du temps pour pouvoir servir le Seigneur quand en soi. Ah, il faut les chauffer, il y a les rimes, il y a le docteur, il y a les voitures, il y a les sources qui calent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, n'est pas les familles. Non, comme on dit, c'est ça dit. Donc, le Seigneur, c'est que même pour les célibataires, on peut servir le Seigneur de manière que même les gens mariés ne peuvent pas le faire. Donc, la femme doit s'occuper de ce que Dieu l'a donné de faire, et l'homme, pareil, lui, doit faire ce que Dieu a décrit qu'il doit être. Il doit mener sa femme, et il doit aussi, écoutez bien, messieurs, mener l'Église. Si on prend verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en même temps les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Moi, j'étais très encouragé ce matin. Quand vous avez eu le temps de prière, je pense, bon, je n'ai pas fait de calcul, mais j'ai l'impression que plus d'hommes prient que de femmes. Mais ça, c'est rare. Dans notre église, souvent, quand on prie, j'entends pas mal de femmes prier plus que les hommes. Alors, c'est pas normal, les femmes n'ont pas de prier quand elles se montrent dans l'église, mais c'est intéressant dans verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Là, il est en train de souligner, écoutez, messieurs, prenez vos responsabilités, et dans le culte public, alors peut-être il y a des restrictions pour les femmes, mais pour vous, menez. Donc, si vous priez, priez. Moi, je pense c'est bien que les hommes, s'il y a des moments de prière, que vous veniez à l'église ayant réfléchi à s'il y a des moments de prière, ben, je vais prier. Et nous allons, messieurs, ben, nous allons mener cette église comme Dieu aimerait que nous la menions. Donc, c'est vraiment une responsabilité double. Chacun doit comprendre quelle est sa place dans l'église et son rôle. Alors, ceci pose une question pratiquement, comment est-ce que ces choses sont appliquées dans nos églises? D'accord, ce qu'on vient, tout ce qu'on vient de dire, comment on l'applique? Comment décider quel service est acceptable ou non pour une femme à faire dans l'église? Parce que, en fait, toutes les églises, si vous prenez 10 églises, bah, toutes les églises vont certainement avoir une optique un petit peu différente sur quel est le rôle de la femme dans l'église, jusqu'à où est-ce qu'elle peut servir publiquement. Ça, c'est pas toujours facile à savoir comment faire. On pourrait quelque part dresser une liste de tous les ministères et tous les rôles possibles et imaginables à faire dans une église, et ensuite définir ce que la femme dans notre église, et à partir de notre compréhension du texte, ce qu'elle pourrait faire ou ne pas faire dans l'église. C'est en fait précisément ce que M. Wayne Grudem, qui est un théologien américain, il a fait dans un article très intéressant qui s'intitule « Mais que devraient faire les femmes dans l'église ?» Il fait une liste de tous les ministères imaginables dans une église, et une fois qu'ils sont listés, il demande à chaque église de voir où ils vont tirer la barre. Qu'est-ce qu'une femme peut ou ne peut pas faire dans une église? Tiens, très. Et sa conclusion est intéressante. Lui tire la barre, ou lui pense qu'elle devrait tirer, mais conclut que chaque église, à cause de son histoire, de ses antécédents, de ses spécificités particulières, va tirer la barre un peu différemment l'une de l'autre, et je pense qu'il a raison. D'accord? Donc chaque église ne va pas être identique sur ce point. Alors c'est là, qui décide? Ben, je pense que c'est là où c'est le conseil d'ancien qui doit décider. Le conseil d'ancien dans une église doit se pencher sur ses textes, se dire, ah voilà, voici notre compréhension biblique du ministère masculin et féminin, et voici où nous allons permettre une femme de servir. Moi je vous donne des exemples, mais je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'une femme peut mener la louange? Est-ce qu'une femme peut lire la Bible et prier? Est-ce qu'une femme peut enseigner dans une étude publique? Est-ce qu'une femme peut prier ou enseigner dans un groupe de jeunes? Alors certains vont dire oui, certains vont dire non. Qui décide? Ben, par rapport à ces textes, c'est là où les anciens, je pense, doivent finalement prendre la décision ce qui est autorisé et pas autorisé dans une église par rapport à ça. Alors nous, dans nos églises, on a pris nos conclusions. Comme j'ai déjà évoqué, quelque part, vous les comprenez. Alors, par exemple, là, on a une discussion intéressante. Nous, on a des groupes de maison, par exemple, et nos groupes de maison sont très particuliers parce qu'ils sont interactifs. Donc, ça veut dire qu'on prend un texte de la Bible, on suit la Bible comme ça, disons, on prend un Timothée, on le suit, on prend une périclope, disons, 5 ou 10 versets logiques, et on les analyse avec des questions, on pose des questions, et ensuite, on donne la réponse. Les responsables se réunissent une fois par mois, on fait l'étude ensemble, Et ensuite, on retourne dans nos maisons, dans nos groupes de maisons, et alors il y a une dizaine de personnes, et alors le responsable, qui est un homme, dit la question. Donc il pose une question, par exemple, il dira au verset, je dis n'importe quoi, dans 1 Pierre 1, 1 Timothée 1, 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, il dira, qui est l'apôtre Paul? C'est la question posée. Alors il a la réponse dans ses notes. Et ensuite, c'est les gens dans l'étude qui répondent. Alors, quelqu'un dira, Paul est un apôtre. C'est bien, quelqu'un dira, Paul est un missionnaire. D'accord? Donc, on commence à discuter sur Paul. Alors, est-ce que les femmes ont le droit d'exprimer des réponses dans les groupes de maison? Est-ce que c'est considéré de l'enseignement et une autorité sur l'homme? C'est une question très pertinente et très, je dirais, très pratique. Alors, nous avons pensé à ça, c'est comme ça que nous l'avons vu. Nous pensons que dans ces réunions, comme dans les cellules de maison, que je viens de l'expliquer, que, premièrement, l'enseignant est attitré. Nous avons un enseignant clair et net, attitré. Deuxièmement, l'enseignement est attitré. Les notes qu'il a figurent de l'autorité. C'est l'autorité parce que ça a été fait, pondu par les anciens, et tous les groupes ont les mêmes notes. Trois, l'autorité est attitrée. De ce fait, dans notre église, dans ces groupes, le dialogue reste un dialogue. Donc ça passe. Lorsqu'une personne, homme ou femme, s'exprime dans une telle réunion, conçue à cet effet, elle n'est pas perçue comme étant en train d'enseigner, ni perçue comme ayant quelconque autorité. Elle donne une opinion qui est corrigible par l'enseignant. C'est bien lui qui est le dernier mot, donc nous pensons que ce type d'interaction est légitime. Mais ça, c'est nous qui avons pris cette décision. Alors chaque église doit, elle, voir ce qui est autorisé ou pas autorisé dans son église par rapport à ses enseignants. Vous suivez un petit peu? Et c'est là où nous avons du travail. Alors, là, c'est très important que tu vois, d'accord? Parce que je crois qu'il y a une autre application ici. Parce que nous pensons que cet enseignement, donc celui du rôle de la femme, a une application importante. Si les femmes ne devaient pas enseigner ni prendre l'autorité sur les hommes dans l'Église, alors ça implique quoi pour les hommes? Bien, ça implique que les hommes doivent être délégués. Que dans le rayon public, les hommes devraient enseigner et les hommes devraient mener l'Église, la lutte des choses. Donc, messieurs, c'est nous, en fin de compte, qui sommes visés ici. On parle du rôle de la femme, ok? Mais la contrepartie, c'est le rôle des hommes. C'est le rôle des hommes. Une femme a dit une fois, John, nous les femmes n'attendons qu'une chose, que les hommes de l'Église se lèvent et nous mènent. On a dit ça. Je dis quoi, en fait, on a dit voilà, John, nous sommes les femmes, et nous attendons qu'une chose, c'est que les hommes se lèvent et nous mènent. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Voilà, ça, je vous donne ma compréhension de ce qu'elle vient de me dire. John. Nous sommes, nous les femmes, des princesses en détresse. Et nous attendons que nos princes charmants viennent nous secourir. Les femmes veulent être menées par des hommes de Dieu. Elles aimeraient dans les églises menées par des hommes de Dieu. Mes amis, ne croyez pas les féministes. La plupart des femmes attendent leur prince charmant et veulent être menées par un tel homme. Et cela, c'est vrai dans l'Église aussi, les femmes veulent et n'attendent que cela, que les hommes se lèvent, les hommes de Dieu et mènent l'Église. Donc, c'est qui devrait être présent en réunion l'Église? Nous les hommes. Nous les hommes. Donc j'espère que c'est votre cas et que là, vous interrogez, vous dites, voilà, est-ce que je suis impliqué comme je pourrais dans cette Église? Est-ce que je suis un leader potentiel dans cette Église? Est-ce qu'il y a besoin de leadership dans cette Église? Est-ce que ma vie est en règle? Est-ce que j'arrive pondérer la parole de Dieu assez bien pour mener une étude publique peut-être? Ou une réunion de prière? Messieurs, à vous de vous lever. À nous de vous nous lever en tant que messieurs. Alors voilà pour le texte. Alors maintenant, ce que je vais faire, j'ai quelques questions que je vais poser, je vais essayer de répondre, et ensuite je vais vous laisser la parole pour poser quelques questions. D'accord? Je vais faire tout ce qu'il y aura et je vais avoir quelques questions. D'accord? Alors, la première, elle est quand même assez importante, donc vous allez la trouver. Écoutez bien Jésus. Si Timothée 2 réserve l'enseignement et l'autorité des femmes sur les hommes de l'Église, comment alors comprendre les femmes dans la Bible qui avaient des rôles de leadership pour la tête prophétesse? Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophétesses féminines. Alors comment code ces deux choses? D'accord? Alors, dans l'Ancien Testament, 5 femmes ont le titre de prophétesse. Le mot prophète veut dire quelqu'un qui expose la parole de Dieu, parfois avec un élément futuriste, mais pas toujours. D'accord? Prophète ne veut pas toujours dire quelqu'un qui fait l'avenir présentement. Prophétesse, celui qui parle pour Dieu ou la place de Dieu. Quelqu'un qui expose la parole de Dieu prophétise de la part de Dieu. Alors la prophétesse la plus connue et citée dans le débat est Déborah, dans Juges 4. 4 dit clairement que Déborah était juge et prophétesse. Alors bien sûr, ce sont des exemples que les féministes disent, bah, tu vois, il y a des prophétesses dans la Bible, alors on fait quoi avec ça? Bah écoutons. Il est dit ceci, dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Alors ça aussi, c'est un commentateur, mais ceci, je cite. Il peut arriver que les circonstances inhabituelles nous obligent à mettre de côté le modèle normal de l'ordre divin. Par exemple, en l'absence d'un mari ou d'un père, la femme de la maison doit servir de chef de famille. Logique. S'il n'y a pas le mari, s'il n'y a pas le papa, c'est la femme qui doit prendre le rôle. Bien que ce n'est pas typiquement ce qui devrait être le cas. Il continue. Il semble donc que les circonstances particulières puissent empêcher que le leadership soit assuré par un homme et que Dieu serve alors d'une femme pour exécuter ses desseins, tel en était le cas de Déborah. Sans lire les passages, je vous dis ça commence aussi. Dans Juges 4, versets 6 et 7, en examinant le récit, on voit très clairement que Dieu avait appelé Barak à diriger la campagne militaire contre les Cananéens. Donc, Dieu voulait que Barak mène. Mais le comble, en verset 8, Barak refuse. Dis-nous, j'y vais. Déborah, verset 9, répond, ok, j'y vais, à ta place. Mais tu n'auras pas de gloire si l'ennemi est tué par une femme. Déborah elle-même savait que ce n'était pas son rôle, mais à cause du manque de courage de Barak, elle assume un rôle qui n'aurait pas dû être le sien. Et donc, nous concluons par rapport à son exemple, oui, elle était juste, oui, elle était prophétesse, mais cela n'aurait pas dû être le cas. Barak aurait dû être la personne. Dieu, cependant, se glorifie dans des situations imparfaites. D'accord? Donc, voilà, c'est le cas, mais ce n'était pas la norme, c'est une exception. L'autre chose qu'il faut dire, et ça c'est très très important, on a quand même le dicton dans l'herméneutique, c'est ce qu'on appelle les règles d'interprétation de la Bible. Un narratif c'est une histoire, d'accord? Est-ce que c'est bien de prendre une théologie à partir d'un narratif? Non, le narratif n'est pas normatif, d'accord? Donc quand on a l'histoire, par exemple, ici, de ces femmes, eh bien, est-ce qu'on peut dire, puisque Déborah était prophétesse, ça veut dire que toutes les femmes auraient été prophétesses? Non, c'était exceptionnel. Donc attention de ne pas être normatif juste en étant même. Deuxième femme dans la Bible, souvent citée, Marie, Myriam, dans Exode 15, Jésus, Marie, la prophétesse, sur la rue, à la mort au tambourin, et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Marie a fait prophétesse ici. Seule une prophétie lui est attribuée. De plus, ce qu'on peut constater, écoutez bien, son ministère était uniquement auprès de femmes. Uniquement auprès de femmes. Parce qu'elle dit, Marie la prophétesse a repris à la mandroie et toutes les femmes vont après les tambourins en dansant. Bon, on pourrait dire à la limite, ah ben voilà, donc c'est une enseignante, prophétesse, qui enseignait les femmes. Ça, ça colle parfaitement avec la Bible. Donc, pas de problème avec cet exemple-là. Troisième exemple, Hulda. Hulda, dans 2 Rois 22, 14, je cite, le sacrificateur Hilkija, Akikam, Akbor, Chapon, Asaja, allait auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalou, fils de Tikva, fils de Akhas, gardait les vêtements, elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Écoutez, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle, mais tout ce qu'on peut voir par rapport à ce exemple, c'est qu'elle a exercé son ministère prophétique dans un contexte, pas dans un contexte public, mais en consultation privée, selon 2 Rois 22. C'était consultation privée, pas en public. nouveau s'accole avec les prescriptions du Nouveau Testament. Et encore la femme d'Ésaïe, mais ça on n'en parle pas souvent, elle nie Noé Dieu. Bref, ce qu'on est en train de voir, c'est quelques exemples, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Au niveau de l'Ancien Testament, on a pas l'impression que le rôle de prophète, c'était une fonction très répandue, ni une fonction de tenir en continuité, comme il était le cas pour les prophètes hommes. On a vraiment l'impression, en comparant les prophétesses et les prophètes, que les prophétesses sont une sorte d'exception dans un entourage très masculin de prophètes. D'accord ? Donc, le principe ici, il faut faire très attention de ne pas simplement prendre un exemple et le rendre normatif. C'est très dangereux, d'accord ? Il faut vraiment prendre ces exemples, regarder leur contexte et réaliser que pour la plupart des exemples, c'était des exceptions, et pour certains d'eux, Alors, parlons juste brièvement du Nouveau Testament. Donc, il y a Marie dans Luc 1,46. De nouveau, y a-t-il des exemples Nouveau Testamentaire de femmes qui donnaient l'impression de prendre le rôle d'enseignement d'homme. Marie, Luc 1,46, elle a prié et loué le Seigneur et nous avons le cantique de Marie. C'est tout pour cette femme. Elle a prié le Seigneur et on a rien à prier. Dans Luc 2, 36 à 39, il y a Anne exposait la parole de Dieu, l'Ancien Testament donc, mais n'était vraisemblablement pas une source de révélation. Elle passait son temps dans la prière et dans le jeûne, dans le temple. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, un exemple, c'est les filles de Philippe qui prophétisaient dans Actes 21, 9. Il est dit que Philippe avait quatre filles qui prophétisaient. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Intéressant que nous ne connaissons ni le message, ni les circonstances de leur prophétie. On ne sait rien de plus que ça. Donc, de conclure qu'elle prophétisait lors de réunions d'église en présence d'hommes et subjectifs, car rien ne nous est dit sur le sujet. Donc, on ne veut pas non plus rajouter de l'information, l'information n'existe pas. On ne sait rien sur ces quatre. Il y a Jézabel. Apocalypse 2:20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner Seigneur et serviteurs pour qu'elle se livre à la débauche et qui mange des viandes sacrifiées aux idoles. Écoutez, elle, c'était une prophétesse autoproclamée qui enseignait le mensonge. Donc, ce n'est pas du tout l'exemple qu'on va y mettre. Alors, c'est quoi la conclusion? Voilà, en fait, les exemples qu'on a dans notre exemple. Bien de nouveau, comme pour les prophétesses dans l'Ancien Testament, nous avons l'impression que les prophétesses mentionnées dans le Nouveau Testament semblent avoir été quelque chose d'exceptionnel et pas quelque chose de marginal. Leur ministère ne semble pas avoir été continu ni long terme, et de plus, il n'y a aucun indice qui nous affirmerait qu'elle prophétisait dans le cadre d'église, dans la présence d'hommes. Écoutez ce que je vais dire maintenant, je trouve ça vraiment intéressant par rapport au rôle féminin dans l'Église. Je trouve intéressant que tous les grands prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes. Aucune femme n'a été appelée à exercer un ministère prophétique continu dans l'Ancien Testament. Tous les petits prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes. Tous les auteurs inspirés de l'Ancien Testament étaient des hommes. Aucune femme n'a jamais été nommée sacrificateur dans l'Ancien Testament. Il n'y a jamais eu de reine, ni sur Israël, ni sur Juda. Athalie était reine, certes, mais ne usurpe plus le pouvoir. Tous les apôtres de Jésus étaient des hommes. Jésus n'a jamais exalté les femmes à une position de leadership au-dessus des hommes. Tous les auteurs inspirés du Nouveau Testament étaient des hommes. Il n'y a pas un sermon ou un enseignement dans le Nouveau Testament donné par une femme. Le Nouveau Testament ne fait aucune mention d'une femme pasteur, enseignant, évangéliste ni ancien. Alors, conclusion. Moi, je veux dire. Si Dieu avait voulu des femmes dans le rôle d'enseignant, n'aurait-il pas au moins introduit une femme dans cette liste à partir? Au moins une. Bien, non. Apparemment, ce n'est pas leur rôle selon la volonté de Dieu. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question. Alors, ça c'est une question intéressante. Je vais voir si vous avez. Alors, regardez, encore, ça c'est du diable, là j'ai pas eu vraiment très mauvaise réponse, j'avoue, j'ai pas eu très mauvaise réponse, mais je vais être honnête d'accord avec vous. En Corinthiens 11, regardez, en Corinthiens 11, il a dit ceci au verset 7. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête ouverte, d'être dans son chef, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, dès devant son chef, c'est comme si elle était rasée. Alors, ce qui est intéressant avec ce texte, c'est qu'en l'église de Corinth, Paul autorise les femmes à prier et à prophétiser dans les réunions. D'accord ? Parce qu'il dit, toutes les femmes au contraire qui prient ou qui prophétisent, donc, puisque les hommes sont enseignés justement dans les réunions des femmes, la tête non voilée des heures son chef, c'est comme si elle était rasée. Donc il n'est pas en train de dire qu'elle ne devrait pas prophétiser ni prier. Il dit que quand elle prie et elle prophétise, elle devrait avoir la tête voilée. Donc ça implique qu'il autorise les femmes à prophétiser et prier dans l'église. Donc, c'est quoi la prophétie? Comment on répond à cette question? Écoutez, moi je n'ai pas besoin de la réponse, parce que je vais vous expliquer. Prophétie ne veut pas toujours dire recevoir de la nouvelle révélation de Dieu. Prophétie, c'est simplement dire parler de la part de Dieu. Quelque part, je suis en train de prophétiser maintenant, parce que je vous annonce les oracles de Dieu. Mais il peut y avoir l'élément culturiste et de révélation directe avant que quelqu'un soit clos. Ce qui est intéressant ici, c'est que le don d'enseignement est différencié du don de prophétie. Donc, l'enseignement, c'est clair, une femme ne peut pas enseigner ni avoir autorité sur un homme dans l'église. Mais apparemment, le mot prophétiser ici n'est pas l'enseignement. Parce que si c'était l'enseignement, ben, ce serait nous, elle ne pourrait pas le faire. Donc, quelle que soit la nature de ce don de prophétie, ce n'est pas de l'enseignement pur, ni question d'autorité. Donc, une femme pourrait prophétiser sans pour autant enseigner et sans pour autant avoir l'autorité sur eux. Donc la question est, mais alors c'est quoi ce don de prophétie? Et c'est là où j'ai un doute. D'accord? Alors certains disent, oui, mais la prophétie est exactement comme l'enseignement, c'est pareil. Oui, mais alors pourquoi est-ce que les deux sont mentionnés? Voyons la différence. Donc dire que la prophétie, c'est plutôt qu'on a un partage. C'est nous dans notre église, de temps en temps on prend le micro, on dit voilà, est-ce que vous voulez partager? Voilà, les hommes et les femmes partagent. D'accord? Et alors une femme va se lever, ou un homme va se lever, ma voiture allait mal, et puis j'ai prié, et puis elle était réparée, super, alléluia, c'est peut-être quelque chose, quelqu'un l'a fait. Une femme se lève, et elle dit quelque chose aussi qui encourage tout le monde. Est-ce que ça, c'est le sens du mot prophétie? C'est un encouragement, une parole, mais pas de Dieu ni lié à l'enseignement, c'est ce que je pense personnellement. Et bon, là, j'ai un petit peu. Alors, l'autre question, ouais, mais ça, on va arrêter là, d'accord? 1, 2, 3, 4. Ah oui, alors ça, c'est important. Alors, ça, les gens vont tout de suite aller, c'est pas une question de grosse, on s'en fait jeune, ils vont dire, oui, maintenant, tu dis qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. La Bible ne dit pas ça. Dans Galates 3, 28, il est dit ceci. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et ils vont dire, regarde, c'est clair, la Bible dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, donc on est tous parfaitement égaux. Ah, comment répondre? Alors écoutez, je vous donne la clé. D'accord? La clé, c'est dans le mot. Contexte, c'est capital que vous compreniez ça. Parce que si quelqu'un vous tire ce verset et vous dit, regarde, la Bible dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme. Donc comment tu peux faire une différence? Les femmes, bien sûr qu'ils peuvent être pasteurs. Réponse, non. Le contexte est lequel? Il faut reculer un petit peu. Il faut reculer. Regardez le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, dit par le roi. Du salut spirituel. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a donc plus juif ni grec. Il n'y a donc plus esclave ni libre. Il n'y a donc ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Le contexte est clairement le salut. Est-ce que c'est juste de dire qu'il n'y a ni juif ni grec? Non, il n'y a pas des Juifs, il y a encore des Grecs aujourd'hui. Donc il est en train de dire que lorsqu'on vient à Christ et qu'on est sauvé, on est totalement égal devant Dieu dans notre salut. Mais ça ne change pas la différence qu'on peut avoir dans l'autre. Donc ça, c'est un verset très important. Et la réponse, si quelqu'un vous pose la question, c'est contexte. Contexte, le salut. Alors, la question que j'ai déjà répondu sur. C'est la question ici, la question 5, 4 plutôt. Sur Priscille. Qu'en est-il de Priscille qui a enseigné à Apollos dans Actes 18, 2 ? D'accord ? Alors là, c'est clair. Elle a enseigné Apollos, Actes 18, 2. Il est dit ceci. Il trouvait un juif nommé Aquila, originaire du fond, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, de se lier avec Dieu. Et à quel moment est-ce qu'il enseignait Apollo ? Là, je viens de perdre. À un moment, ils enseignaient Apollo les deux. Et c'est où ça ? Ah oui, c'est là. Un Juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et fervent d'esprit, il annonçait enseigner avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue, Aquila et Priscille, Aquila est dit en premier, la femme, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Voilà, une femme enseignait un homme. Donc la théorie ne colle pas. Ah, d'ailleurs, facile. Parce que rien n'est dit qu'il enseigne Apollon dans le cadre d'une réunion officielle d'église à l'église. Là, c'est plutôt, ils ont pris Apollon chez eux et ils ont discuté un peu comme dans toutes les autres. C'est très très différent, c'était pas dans une réunion de l'église. Donc, ça, c'est un point qui ressort assez souvent. Aquila, et puis le fait que Aquila est mentionné avant, Priscille est mentionné avant Aquila, dit pas voilà, la femme est mentionnée avant son mari, et ça, c'est vraiment significatif. Oui. Donc, peut-être que lui pouvait juste simplement honorer la femme en la mettant avant sa mort. Ça ne veut rien dire, juste le fait qu'il est debout. Donc, nous, il ne faut pas, prendre un verset comme ça et en faire dire beaucoup de choses qui ne devraient pas être dites par rapport à ce verset. Peut-être encore juste deux points rapides. À la fin de Romains, c'est un débat récent que moi, je ne connaissais pas jusqu'à récemment. Il y a une femme. Dans Romains 16, ou un autre, dans Romains 16, 16, et ça c'est vraiment ce que les théologiens pensent vraiment. Dans Romains 16, 7, il est dit ceci. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui ont même été en Christ avant moi. Alors la grande question ici, c'est le nom Junias. Est-ce que Junias était un homme ou une femme? Et si c'était une femme, est-ce qu'elle était ancienne? Et est-ce qu'il a même enseigné Paul, selon ce verset? Alors, écoutez, là, il y a des débats énormes. Des livres ont été écrits sur le nom Junias, d'accord? Alors, je ne vais pas vous donner toutes les argumentations. Il y a un très bon blog qui s'appelle Le Bon Combat, si vous avez entendu parler. Et sur Le Bon Combat, vous allez taper Junias. Et là, il y a un gars qui s'appelle Guillaume Moine, un mec qui est vraiment brillant. Et il y a tout un article, enfin deux articles sur le sujet de Junias, et il montre clairement qu'on ne peut pas conclure que le mot Junias est féminin. On ne peut pas conclure ça de manière définitive. Il y a une ou deux fois où le nom apparaît en tant que féminin, et dans la grande majorité du cas, ils ont tracé tout ça jusqu'à l'Antiquité, le mot Junias, pour prouver que la plupart du temps c'est un homme, mais qu'on ne peut pas prouver ici par ce verset de manière définitive que c'était une femme qui était ancienne. Mais ça, je vais vous donner toutes les argumentations pour que ce soit vraiment très très bon. D'accord ? Et dernière question, la question qu'on pose, mais alors est-ce que j'ai le droit de lire un livre écrit par une femme ? Parce que si je lis un livre écrit par une femme, ça veut dire que je suis étranglé par une femme. Alors, de nouveau, un livre écrit par une femme, il y a des femmes brillantes qui écrivent des livres super, j'en ai que dans ma bibliothèque, d'accord ? Ce n'est pas un problème d'autorité sur un homme dans le contexte d'une église locale. D'accord ? On n'est pas dans une église locale. C'est une femme qui a écrit un livre, on peut le lire, mais ce n'est pas elle qui va devenir l'autorité de l'église, ni un enseignement sur les hommes, c'est simplement un enseignement hors église. Donc on n'a pas de problème si le livre est bon, et tu le jugement, juste le livre, d'accord ? Mais ça, ça, à la limite, ce n'est pas un problème en soi. Alors là, j'étais très vite, mais j'ai un petit peu autour des questions, je dirais, un petit peu épineuses par rapport à ce sujet. Alors, je ne sais pas du tout si je suis concluant ou pas, j'espère avoir été honnête avec la parole de Dieu. Mais avec ça, on a du temps, si vous aimeriez me poser des questions, vous pouvez essayer de me piéger, vous allez certainement pouvoir le faire, mais je vais faire du mieux de répondre à vos questions. Et si vous avez des questions sur autre chose, n'importe quoi, c'est bon, bien sûr, c'est bon, Nicolas,
c'est bon.
Voilà, écoutez, alors, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à quelque chose que vous avez entendu, est-ce que vous aimeriez réagir, voilà, à vous de me dire, de poser des questions si vous avez des questions. Oui.
Oui, moi j'ai une question, c'est, il a été dit que bon, la femme ne pourrait pas être ancienne, dans l'Église, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de l'homme célibataire? Parce qu'il dit que l'ancienne doit être mariée avec une autre femme.
Ah.
L'homme célibataire, qu'est-ce qu'il y a de
l'homme? Ok, alors une bonne question. Alors, est-ce que l'homme célibataire, parce que dans Timothée, il a dit que l'homme doit être marié avec une seule femme, est-ce que ça veut dire que on ne peut que être ancien si on est marié? Alors, la réponse rapide, c'est on pense à des gens comme Paul, qui était célibataire, Jésus, qui était célibataire, Timothée, qui était célibataire, ce serait inimaginable d'imaginer que ces trois ne pourraient pas être anciens. D'accord? Donc, probablement, ce verset, mari d'une seule femme, ne peut pas dire, il y a plusieurs points, mais certains disent, voilà, il faut être marié, d'autres diront, mari d'une seule femme, je veux dire, tu ne peux pas l'avoir fait. Donc, c'est interdit si tu es polygame. Mais probablement, la bonne définition, c'est comme ça que je comprends, mari d'une seule femme, ça veut dire que si tu es marié, tu n'aimes qu'une femme, la tienne, et que tu es connu pour être un homme d'une femme. T'as pas les yeux à droite, t'as pas les yeux à gauche, t'es pas un dragueur à droite et à gauche, d'accord? Et si tu es célibataire, si tu es qualifié par la patrouille qualification, tu n'es pas marié, mais tu es un homme et une femme du fait que tu attends la femme que Dieu te donne si tu en donnes une, et donc tu as déjà les yeux comme pour cette future femme, et quand tu seras marié avec elle, tu auras les yeux comme pour elle, d'accord? Donc j'ai l'exemple, il y a certains ici qui connaissent, Jean-Pierre Capas, qui était pasteur à la Réunion de la Maison, était un célibataire, et donc il est devenu pasteur de cette église, il était ancien, puis ensuite, par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné une femme sublime qui s'appelle Marie, et ensuite il s'est marié au cours de son ministère. Et donc dans notre, dans ma compréhension des choses, ça n'élimine pas un célibataire de pouvoir être pasteur. Très bonne question.
Il y a des choses aussi.
Oui, oui.
Oui, alors, moi je voulais poser la question par rapport à, j'ai entendu dire que Marie de Magdala, la sœur de Lazare, c'était elle qui avait découvert en premier, qui est venue pour après
la résurrection.
Voilà, c'était en premier qui avait vu Jésus. Et il y a certaines femmes qui ont fait, qui se basent aussi sur ça, et qui disent que voilà, cette femme, c'était la première personne que Jésus a dit, va annoncer, voilà, que je suis là. Donc on a les femmes ont le droit d'enseigner parce que Jésus avait donné son accord à protéger.
Ok, alors, très bien, c'est un excellent exemple, merci d'avoir suivi, d'accord? Donc c'est vrai que la Bible nous dit, si je ne me trompe pas, c'est ici, c'est dans Matthieu 28, après le sabbat, alors les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala, et l'autre Marie, elle est en face de ses putres, et voici un autre commentaire, elle est elle qui voit Jésus ressuscité. Et ensuite, on dit, bah, va annoncer ça aux autres. D'accord, donc elle va annoncer à Pierre et à Jean, et ensuite, ils viennent courir pour voir la tombe. Question. Question. Alors, c'est un texte narratif. Ça veut dire que c'est une histoire avec des faits. N'est-ce pas? Donc, c'est vrai. La première personne qui a vu Jésus ressuscité, c'était une femme. Ok. Il y avait plus de 50 chances. Ça pourrait être une femme ou un homme. D'accord? Donc, c'est une femme. Très bien. Deux. Va dire aux autres que tu as vu que je suis ressuscité. Elle y va. Alors, un, est-ce que c'est dans le cadre d'une église locale? Non. Et c'est le cadre d'une autorité sur les hommes dans le cadre d'une église locale? Non. C'est pas différent de dire à aux femmes ici, écoutez, mesdames, est-ce que vous avez un voisin qui a besoin de Jésus-Christ? Allez, lui annoncer Jésus-Christ. Ça, c'est tout à fait ok et légitime. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est de prendre un texte narratif et de le rendre normatif. Puisque Jésus s'est apparu à cette femme et lui a dit, va annoncer aux autres, que ça devienne la norme pour le ministère féminin. Ça, j'ai l'impression que ça pousse très très loin simplement une observation et une réalité d'une femme qui était là son premier jour de la résurrection. Tu me suis, vous me suivez dans la course? Mais ça, je sais, on entend souvent ça, mais je crois qu'il faut vraiment toujours revenir au contexte et se dire est-ce que c'est un texte normatif? C'est très important. Un texte narratif, c'est un texte d'histoire, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer si ce qu'on lit dans un texte narratif est normatif? Je vous donne un exemple très intéressant, d'accord? Dans Acte. Je vais vous trouver ça dans deux secondes. 2, voilà. Alors, écoutez ce qui s'est passé dans Acte 2, d'accord? Je veux dire, c'est très important, c'est pour comprendre comment interpréter la parole. Dans Acte 2, on sait que 3000 personnes se convertissent dans le verset 41. Dans le verset 45, voici ce qui est écrit. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun. Alors, je suis prédicateur, aujourd'hui je dis, mes amis, la Bible dit qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Voici ce qu'on leur a fait. Je vous demande cette semaine, allez vendre tous vos maisons, vous vendez tous vos maisons et toutes vos propriétés, vous allez la rue ici pour distribuer à tout le monde. Comment vous réagissez ici dans la Bible? C'est juste ou c'est pas juste ce que je veux dire? Mais est-ce que vous allez le faire? Si je vous dis de le faire, j'étais votre pasteur, est-ce que vous pourriez prendre? Alors, vous désobéissez à la parole de Dieu. Alors, comment on détermine? C'est très important ce que j'entends vous dire. Le problème, c'est que ça, c'est un texte narratif. Ça explique ce qu'ils ont fait à l'époque. Alors, comment déterminer si un texte narratif devient normatif? Voici la clé. Nous avons ce que nous appelons les épîtres. Les épîtres, c'est à partir de Romain, d'accord, et tout le reste de l'Ancien du Nouveau Testament jusqu'à Apocalypse, on peut dire. Les épîtres sont des enseignements normatifs. C'est pour ça que dans 1 Timothée 2, lorsque nous parlons aujourd'hui du rôle de la femme, nous avons pris 1 Timothée 2 comme un texte normatif pour toute l'histoire. Mais Acte 2,45 sur les propriétés vendues n'a jamais été répété ni enseigné dans les Épîtres, jamais. C'était un exemple de quelqu'un dans l'histoire, c'est tout. Donc on ne peut absolument pas le rendre normatif. Et ça, c'est ce qu'on a fait des sectes. Les sectes, ils ont réussi à faire ça et dire que nous devons tous aller vivre en communauté. Non, nulle part dans la Bible n'est-il dit qu'il faut faire ça. Le contraire, tout le monde fait le contraire, c'est dans Timothée 6, il est dit ceci. Revenons au verset 17, aux riches du présentiel de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommandez-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, et d'avoir de la libéralité et de la générosité. Donc la Bible, dans les épîtres, ce qui est normatif, c'est de dire si tu es riche, bah, tu as le droit d'en profiter. C'est ton droit d'être riche. Attention, par contre, sois généreux. Personne ne peut t'imposer la limite de ta générosité. Tu dois être généreux, c'est tout ce qu'il dit ici. Donc on ne peut absolument pas aller dans l'acte de 45 et dire « Ah, tu dois tout vendre. » Non, parce qu'il dit que dans l'Église, il y avait des riches et il n'a jamais demandé aux riches de tout vendre. Donc c'est très très important ce que je suis en train de vous dire, c'est capital parce que beaucoup de gens prennent les textes narratifs et les rendent normatifs. Et ça, c'est un grand danger. C'est un peu long, mais ça rejoint une autre question par rapport à Acte 28. C'est vraiment une question très très importante d'interprétation. Oui.
Oui. Alors, bonjour à tous. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire et en ce moment, je regarde une vidéo sur YouTube. Il y a une dame, en fait, qui témoigne qu'elle a vu Jésus, qu'il a changé sa vie. Et cette dame-là, en fait, elle fait des conférences où elle enseigne, où elle explique son histoire, où aussi elle se base sur des textes de la Bible pour enseigner les femmes à être persévérantes en prière, à suivre l'exemple de Déborah. Est-ce que cette personne-là a le droit d'enseigner, puisqu'il y a aussi des hommes, c'est dans une église que ça se passe, il y a aussi des hommes.
Voilà, c'était toujours la question qui revient avec Joyce Meyer, peut-être que vous la connaissez, vous l'avez entendu, d'accord, c'est un conférencier très connu aux États-Unis, et qui va dans le monde entier, et qui, voilà, Internet a changé la donne, je vais vous dire ce qui est, d'accord, les trois types olympiques, le bien et le mal. Alors, la question est, est-ce qu'une femme a le droit d'être conférencière de ce genre, c'est un petit peu ça la question?
Oui, parce qu'en fait, elle explique ce qu'elle a vécu.
C'est un témoignage.
C'est son témoignage. Est-ce qu'elle a le droit ensuite de faire des conférences, de réunir des gens et...
Alors, c'est une question intéressante. Alors, ma réponse, alors, c'est moi qui vous donne mon opinion à moi, d'accord? Moi, je pense que Timothée et Dieu est clair, Timothée et Dieu est clair, c'est ce qu'on a vu, c'est que le cadre est dans l'église locale, bien défini, dans une réunion officielle d'église locale, ils ont comme aujourd'hui, d'accord? Avec des hommes présents. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'une femme ne devrait pas. Alors, les gens diront, oui, mais c'est qu'un témoignage. Alors là, ça devient compliqué, d'accord? Parce que c'est vrai, nous, dans notre église à Genève, on a des dimanches où les gens peuvent se lever et donner un témoignage, et donc les femmes ont donné des témoignages. Alors, où est-ce qu'on tire la barre entre un témoignage et un enseignement? Là, j'avoue, c'est pas trop facile, d'accord? Mais je pense qu'au niveau du témoignage, ça passe. Mais non, si c'est hors église, conférence de ce type, même Joyce Meyer, alors pas pour Joyce Meyer, il y a deux choses. Un, théologiquement, est-ce qu'elle tient la route? Ça, c'est une autre question. Moi, j'ai mon doute par rapport à ça. L'autre question, c'est, est-ce qu'une femme a le droit d'être conférencière? J'ai envie de dire que oui, je pense qu'une femme peut être conférencière, mais s'il y a des hommes, oui, si la conférence n'est pas dans le cadre d'une église locale. À l'aide que je tire les cheveux, j'en sais rien. Vous dites honnêtement, je ne sais pas trop, d'accord? Mais pour moi, Christ bâtit l'église. Matthieu 16. Donc, dans l'église, c'est capital qu'on trouve la bonne solution. À l'extérieur de l'église, c'est plus difficile de gérer. Donc, je ne sais pas si ma réponse est claire ou pas. Je pense qu'elle a peut-être plus le droit à l'extérieur, mais si elle est dans une église, comme vous l'écrivez, là, j'aurais peut-être un problème, parce qu'on a l'impression qu'elle devient l'enseignante régulière avec autorité sur les hommes. Donc, moi, je dirais, moi, je pense que là, elle dépasse les bornes de l'intimité. Peut-être quelqu'un d'autre peut répondre, mais ça, c'est juste, je vous donne mon opinion personnelle, d'accord?
Alors,
ça répond un petit peu à la question.
Est-ce que, justement, tu parlais d'Internet, avec tout ce qu'on peut voir, entendre, écouter, est-ce que c'est pas, bon, c'est dangereux dans un certain sens? Comment il faut envisager cela par rapport à, justement, à l'enseignement que tu viens de nous donner aujourd'hui?
En fait, honnêtement, je ne sais pas, mais ma première réponse à laquelle j'ai envie de donner par rapport à ta question, c'est de dire, est-ce que dans nos églises locales, l'enseignement est si clair que ça nous aide à filtrer ce qui est juste et pas juste en fait? C'est ça. C'est comme, comment est-ce qu'on découvre un faux billet? Alors, on a toujours dit qu'on découvre un faux billet, ils apprennent aux gens, mais ils les gardent de nouveaux billets. Et que tu connais tellement bien le nouveau billet que quand il y a un faux qui arrive, tu vas tout de suite. Et je pense que c'est pareil. Dans nos églises, est-ce que notre enseignement est tel qu'on l'enseigne de manière claire, méthodique, solide, ces choses, même ces choses controversées, d'accord? Pour que quand on est sur Internet et on voit un truc, on arrive à déterminer, ouh, là, j'ai l'impression que ça colle pas vraiment. Mais ça, j'avoue que là, on est face à. Alors, Internet, c'est génial d'un côté, mais il y a le meilleur et le pire. Et on a tous été voir des trucs complètement farfelus, quoi. Non, mais les trucs, ça fait rire. Mais les trucs, c'est vraiment dangereux. Et moi, par exemple, je connais très bien, parce qu'on a un exemple concret dans notre église, il y a quelqu'un qui, pendant des années, hein, je connaissais cette personne, était classique, clair sur sa doctrine, Bible, tout ça, elle nous a aidé à même construire la confession dans notre église, à cause d'Internet. Cette personne a décidé un jour que Jésus n'est plus Dieu et a nié la divinité de Jésus-Christ. C'était un ancien dans l'Église. Alors, ça m'a complètement déboussolé. Et l'Église aussi, parce qu'on s'est dit, waouh, la puissance d'Internet, la puissance d'Internet est très très forte, d'accord? Et on peut tout trouver sur Internet. Donc, je pense que ça nous pousse à être encore plus rigoureux dans notre enseignement, sachant qu'on ne peut pas non plus empêcher que les gens aillent voir la droite et à gauche, et certains vont se faire choper par un truc et vont partir. C'est sûr que ça va arriver. fait, les bons prophètes, ils en parlent constamment. Mais aujourd'hui, c'est plus répandu. Parce qu'on est moins sage, on peut cliquer n'importe où et donc on peut se faire avoir plus facilement.
Là, on parle plus d'infirmerie. Est-ce que c'est normal qu'une femme devienne pasteur?
Est-ce que c'est normal qu'une femme devienne pasteur? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'une femme devienne pasteur?
Elle n'est pas pasteur, on est bien d'accord.
Ah, il y en a beaucoup, oui, oui. Mais est-ce que c'est juste?
Oui.
Ben, moi, je dirais non. Non, non, d'après tout ce que j'ai dit ce week-end, moi, je pense que ce n'est pas le rôle d'une femme d'être pasteur.
Mais est-ce qu'il y a des enseignements pour devenir pasteur?
Ah oui, mais en plus, je pense qu'il y a certaines femmes pasteurs qui sont peut-être même chrétiennes et de nous, qui aiment vraiment Jésus-Christ, mais elles ont une optique différente sur les textes que nous avons lus aujourd'hui. Donc elles prennent les mêmes textes et elles les changent pour les conforter dans leur vue. Alors, il y a plein de livres aussi qui sont féministes et qui montrent, donc, qui essayent de montrer que ce que tout je vous ai dit ce week-end est faux. Alors, c'est ma réponse. Ma réponse, je pense que nous, c'est pas le rôle d'une femme d'être pasteur. Voilà, c'est le monsieur qui nous a parlé tout à l'heure, c'est intéressant. Ma réponse rapide par rapport à ça, il dit il faut que l'ancien soit inapprochable, mari d'une seule femme. Alors, question. Comment est-ce qu'une femme peut être mariée d'une seule femme? Alors, c'est tout bête, mais c'est pas bête. Parce que c'est là. Parce que alors là, si moi je suis une femme et je suis pasteur, je dois réinterpréter ça. Et pour moi, c'est vraiment compliqué de réinterpréter ça. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Elle va dire femme d'un seul mari. C'est pas ce que le texte dit. Le texte dit mari d'une seule femme. Impliqué que l'évêque doit être un homme. Donc voilà tout le débat aujourd'hui. Le débat, c'est est-ce qu'une femme peut être ancien responsable d'église, pasteur, selon les lois? Non. Car selon moi, ce que je pense, la Bible enseigne, non. Mais les femmes qui le sont et qui le deviennent, c'est une optique différente. Alors est-ce que Dieu va les maudire, tout ça? Quelle est la grâce de Dieu? Elle est vraiment grande. Elle est vraiment grande. Et moi, je pense que Dieu va. C'est comme le divorce, c'est intéressant. Le divorce est clair. Dans Malachie, il est dit que Dieu est le divorce. Mais en même temps, il dit à Moïse, mais écoute, on va te donner des lettres du divorce, parce que le divorce est tellement répandu que si tout le monde meurt dans l'adultère, il n'y aura plus personne. D'accord? Donc il dit, dans la même concession, on va te donner une lettre de divorce. Donc, le divorce est autorisé, mais est-ce que c'est la norme? Non, c'est pas la norme. Non, c'est pas la norme. Donc Dieu permet des choses, parfois, ça c'est sans sa grâce, et un jour, c'est lui qui va créer tout ça. Mais, c'est un peu long ce que je peux répondre, mais je dirais, non, je pense qu'une femme l'aurait pas. Oui.
J'ai réalisé cette séance. La première concerne le culte familial. Est-ce que quand même le culte familial pourrait permettre à la femme de conduire le culte familial?
C'est une bonne question.
La deuxième question concerne. J'avais vu que la femme devait se couvrir la tête.
Oui.
Et qu'est-ce que cela nous dit?
D'accord. Alors, première question sur le culte familial. Alors, de nouveau, je suis assez littéraliste là-dedans. Je pense qu'au niveau du foyer, c'est différent qu'au niveau de l'église locale. D'accord? Donc, je pense que oui, une femme pourrait mener le culte familial. Mais là, je dirais, c'est moi de nouveau mon cœur qui parle, si la femme mène le culte familial parce que l'homme se dégonfle, ça, c'est pas bon. D'accord? Et messieurs, avouons-le, on est se dégonfle. Et rien que l'on a même, c'est exactement ce que disait hier, c'était le renversement du rôle, d'accord? Alors les hommes, ils disent, super, ma femme elle est mieux que moi, elle est plus au Seigneur, elle est plus sabine, c'est souvent les discours qu'on entend, et peut-être, mais votre femme aimerait que vous meniez les femmes, d'accord? Donc, messieurs, ne vous dégonflez pas, mais je ne pense pas que c'est interdit, mais il ne faut pas qu'elle prenne le dessus. Et quand elle commence à mener le foyer, ça c'est pas juste. Alors, deuxième question sur le voile. D'accord, le voile est dans 2 Corinthiens 11. Alors, je vais essayer de faire bref par rapport à ça. Alors, la question c'est quoi exactement? Quelle est la nature du voile?
Parce que chez nous, il y a eu des églises qui obligeaient les femmes à avoir un foulard. Et dans les églises, même moyennes, certains moments de vie, les dames s'étaient organisées de sorte que même si tu es étranger, que tu n'avais pas un foulard, on va te donner un foulard pour que tu aies le foulard sur ta tête pendant le feu. Et même à la maison, on obligeait les femmes à se couvrir la tête avec un foulard pour prier.
Et puis si elle ne couvrait pas la tête, elle était presque impure.
C'était pas la même
chose. C'était pas ce que. Comme vous le savez peut-être tous, les églises exigent qu'une femme mette un voile sur la tête. Et d'autres églises, comme la vôtre et la nôtre, ce n'est pas exigé. Alors, qu'est-ce que dit le texte? Allez, 5h11. Je vous dis que vous souffrez le mal à tous égards, est-ce que vous retenez les instructions telles que je vous ai données? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise sa tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle coupe aussi ses cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voit. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, et la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout est de Dieu. Juste en vous-même, est-il comptable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter le long cheveu, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que les chevelures lui ont été données comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous avons pas cette habitude, en plus que les églises de Dieu. Alors voilà le texte. Question, est-ce que ce texte dit que les femmes doivent porter le voile ou non? Alors, je vais y revenir par rapport à ça, d'accord? La question de base est celle-ci. Paul est-il en train de dicter le port du voile, et c'est tout? Ou est-il en train de dicter une expression culturellement appropriée pour exprimer la masculinité et la féminité des hommes et des femmes qui étaient dans leur culture le port du voile pour la femme? Donc, est-ce que c'est un texte littéral qu'une femme doit porter le voile, ou est-ce que le texte parle du rôle de l'homme et de la femme et qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, qu'elle montre la distinction de ce rôle? Alors, c'est intéressant, regardez le verset 14, il dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est pour une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alors, il dit ici, et c'est la question que je pose, comment la nature fait-elle pour nous enseigner que les cheveux longs déshonorent l'homme et que la femme reçoit un couvre-tête? En fait, c'est intéressant, la nature n'a pas doté les femmes de plus de cheveux que les hommes. Au contraire, si on laisse la nature faire son choix, est-ce que vous savez que les hommes ont plus de cheveux que les femmes? Vous savez pourquoi? Parce que nous, on a le truc en plus que vous, vous l'avez pas. Donc les hommes, en fait, ont plus de cheveux que les femmes. Donc, si la nature, c'est ce qu'il dit ici, c'est intéressant, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est un nom pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Donc, est-ce que la nature, vraiment, est-ce que si la nature dicte la chose, ça veut dire que les femmes ont plus de cheveux que les hommes? La réponse est non. Donc, ce qu'on lit, apparemment, n'est pas exactement ce qu'on va comprendre. Il est en train de dire que la nature dit autre chose. Il va y avoir une autre manière que la nature enseigne cette vérité. Et donc, il est probable que la nature et la culture travaillent ensemble ici. Les coutumes nous disent que la manière qu'on porte nos cheveux sont d'habitude masculines et féminines. Et la nature enseigne que l'homme, d'habitude, ressent une honte lorsqu'il s'habille avec des symboles et des vêtements de femme. Je vous donne un exemple. Si Nicolas Mabille, si j'étais arrivé en jupe, comment vous auriez réagi? Et en plus avec des talons. Si j'arrive avec des jupes et des talons, puis je dresse exactement comme elle ment, les gens qui sont malades, vous voyez une jupe et des talons, comment vous réagissez de l'époque? Est-ce que vous entendez quelque chose que je dis?
Rien.
Pourquoi ça ne passerait pas? Parce que notre culture a clairement déterminé ce qui est féminin et ce qui est masculin. Et les jupes et les talons, notre culture nous l'a clairement dit, sauf en Écosse, on est d'accord, parce qu'ils ont des kits là-bas, mais c'est très différent, parce qu'à l'époque, on a reçu un poignard. Mais la culture dit qu'il y a des symboles de masculinité et de féminité. Et la jupe, c'est un très bon exemple. Les cheveux, c'est un très mauvais exemple, parce qu'aujourd'hui, une des grandes modes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les men. Vous connaissez? C'est les hommes blancs qui ont des petits chignons. Hein, c'est assez cool ces chignons. Moi, personnellement, j'aime bien le look, d'accord? Mais bon, je ne vais pas s'exprimer dans le droit, je crois que c'est pas tout à fait d'accord, d'accord? Mais moi, je ne suis pas contre ça, d'accord? Donc les cheveux, aujourd'hui, de notre ère, globalement, c'est vrai que les femmes ont les cheveux plus longs que les hommes, mais dans notre église, c'est pour le père et une sœur, et le père a les cheveux plus longs que sa sœur, d'accord? Donc ça peut arriver que les hommes ont les cheveux longs. Donc ce symbole de la chevelure n'est plus comme elle était autrefois. D'accord? Mais dans leur société, oui, la nature et la culture montraient que les femmes avaient les cheveux longs, les hommes ne devaient pas avoir les cheveux longs, et ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles prenaient sur soi ses cheveux, elles les montaient, comme je parlais tout à l'heure des chignons, elles avaient une manière de porter ses cheveux. Donc certains pensent que le voile était les cheveux, comme il est mentionné ici, et d'autres disent non, il y avait en plus un voile qui était un symbole à l'époque de cette féminité et de cette soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Donc, ses cheveux lui ont été donnés comme voile, il dit que la nature a donné à la femme les cheveux et que la culture suggère que la manière de souligner sa féminité, c'est de laisser pousser ses cheveux longs et les arroser sur la tête pour en faire un voile. Donc, le but, selon moi, pour répondre à votre question, c'est que ce n'est pas le voile ici la clé, c'est la marque d'une femme soumise à l'homme. C'est une marque. C'est une marque qui était à l'époque ce voile par ses cheveux. Donc, je ne sais pas si vous êtes convaincu par cette réponse, mais ce que j'ai envie de comprendre, c'est que quelqu'un va ajouter quelque chose. C'est intéressant, je trouve, parce que ce texte, on le lit comme ça, on a l'impression qu'il dit tout simplement que les femmes devraient porter un voile. Si c'était le cas, parce qu'il est tellement clair, enfin, c'est l'impression qu'on a, pourquoi est-ce que la grande majorité des églises ne porte pas le voile? Si c'était clair, vraiment clair, que c'était vraiment un voile qu'il fallait mettre sur la tête, bien les églises le font, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Alors, des églises le font, mais la plupart ne le font pas. Pour moi, c'est assez parlant. On n'est pas en train de dire que la majorité a toujours raison, mais puisque le texte est là, et pourquoi on va l'examiner, on a l'impression que la plupart des églises, tombent sur l'interprétation comme quoi, c'est un symbole culturel et pas le voile sur la tête. J'ai certainement donné une réponse beaucoup trop longue, mais je ne sais pas si ça vous a aidé un petit peu.
Oui. J'ai une question par rapport à nous qui sommes, disons, des chrétiens avertis qui ont eu une formation ou un enseignement. Alors ma question est la suivante, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, même en ayant eu un enseignement ou une instruction, le fait qu'on puisse se tourner peut-être dans une église où il y a une femme pasteur. Alors, ça peut être troublant parce qu'on se dit, mais on connaît très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire, et pourtant, ça ne pose pas de problème de fréquenter dans une église où il y a une femme pasteur. Alors, est-ce que c'est un problème, mettons, Dieu a donné un certain ordre des choses, et en faisant ça, est-ce que quelque part, on ne va pas au-delà de ce que Dieu veut dans son ordre? Et est-ce que c'est défier aussi Dieu dans son autorité? Voilà. C'est troublant.
Alors, je ne peux pas vraiment répondre pour les gens qui font ce changement. Moi, je pense que premièrement, ça doit être une étude de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est tellement convaincu de l'inhérence et de l'autorité de la parole de Dieu que lorsqu'on a conclu la vérité, on le vit pour la vie? Je pense que les gens qui font ce switch sont pas clairs. Ils n'ont peut-être pas pris le temps pour lire des livres, pour essayer de comprendre. Alors, je dis peut-être que certains, peut-être oui, mais je pense qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait dans un moment qu'ils ont le projet? Est-ce qu'ils ont examiné les Écritures? Est-ce qu'ils se sont fait une conviction personnelle? Est-ce qu'ils arrivent à dire? Moi, je pense que beaucoup de gens le font. Je pense qu'il y a certains gens le font. Peut-être que je me trompe, je vous donne mon opinion. Les femmes, il faut dire ce qu'il y a, globalement, sont plus sensibles que les hommes. Et elles accueillent, elles sont sensibles à des. Dieu les a créées pour être des jeunes, des hommes, donc elles ont le côté compatissant d'habitude, elles sont gentilles, elles sourient, vous voyez ce que je veux dire. Et je me demande si nous les hommes, parfois, on est perçus comme un peu plus durs. Plus durs, voilà, on martèle la doctrine, et parfois on manque de compassion, ça j'avoue, d'accord. Alors est-ce que certains se disent, voilà, une femme, c'est beaucoup plus compassionné, il va mieux comprendre. Est-ce qu'il y a des raisons qui sont plus que théologiques pour ce changement? Ça, c'est une possibilité. Ouais. Mais je pense qu'il peut y avoir de multiples raisons, mais je ne connais pas toutes. Je ne les connais vraiment pas toutes. Mais c'est une question très intéressante. La même question est pourquoi est-ce que soudainement, après 20 ou 30 ans, quelqu'un changerait d'avis sur la divinité de Jésus-Christ? Alors, ils diront, ben, j'ai étudié les Écritures, et j'ai étudié. C'est dur, c'est vraiment dur. C'est le même débat avec le mouvement charismatique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a des charismatiques et des non-charismatiques? Est-ce que ceux qui ont fait le changement d'un à l'autre, ou qui prennent une position, est-ce qu'ils ont vraiment étudié la parole de Dieu pour se former une conviction personnelle? Ou bien, tout simplement, ils sont suivis parce qu'il y avait des gens sympas qui étaient là, et puis ils aimaient l'ambiance. Il y a plein de raisons, je pense. Hein. Et c'est pas facile, ça, c'est pas facile. Mais je pense que le principe, c'est l'autorité des Écritures. Est-ce que je suis convaincu que la Bible est mon autorité finale, puisque je suis prêt à potasser, à lire les livres et à comprendre les points théologiques, et ensuite d'obéir à la parole? Ça, c'est par exemple, je dis sur la discipline de l'Église, nous on a une pratique de la discipline publique dans notre Église, mais ça, en Suisse et même, je dirais, en Europe, en France, c'est assez dangereux, parce que c'est pas habituel dans la discipline de l'Église. Et nous, on en est arrivé là parce qu'on a étudié les Écritures, on est convaincu que les Écritures prônent et encouragent la discipline d'Église. Mais on est vraiment dans la minorité, quoi. Et ça nous a créé des problèmes. Parce que quand on commence à révéler le péché des gens publiquement, alors il vient par la surtout en corps. Donc, de nouveau, on va se dire, est-ce que je suis convaincu de ce que la Bible dit? Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Mais je pense qu'on est arrivé à ça. Et je pense que si vous connaissez quelqu'un, l'idée, ce serait d'aller essayer de le parler, mais écoute, parlons de découverte, essayons de comprendre ce que la Bible dit. Peut-être qu'il y a une préférence, moi j'ai une préférence, mais voyons ce que la Bible dit. Voyons ce que la Bible dit. Alors, il y a des années en arrière, quand il y a eu les guerres du cœur, il fallait s'attirer. Et bien, voilà, c'était intéressant parce que j'étais pasteur à l'hiver et il y avait des gens qui étaient pro-américains. C'était avec moi, Salah Hussein, en Irak. Alors, il y avait des gens qui étaient pro-américains, ouais, trop bien les Américains, bon, je vais l'Asie. Ensuite, il y avait des gens qui étaient pro-Hussein et pro-arabes. Ils disaient, ah oh, non, vous, c'est un nul, les Arabes, ils ont raison, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Donc, il y avait des pros, il y avait des pro-Irak, il y avait des pro-américains, puis ensuite, il y avait tout un groupe qui était neutre, parce que la Suisse est neutre. Dans l'église. Donc, on avait presque ces batailles dans l'église, je me disais, aïe, on va voir une guerre du code dans notre église, je ne sais pas comment on va résoudre ce problème. Alors, un jour, j'ai dit, écoutez, les amis, on a tous les opinions sur qui a raison ou qui a tort. Ce qu'on va faire, on va examiner les Écritures et on va faire une étude sur ce que dit la Bible sur la guerre. Et donc, j'ai fait plusieurs messages sur la guerre, c'est le pire, en fait, qui n'est plus édité, mais j'ai dit, regardons ce que la Bible dit sur la guerre, et voyons l'optique de Dieu sur la vie. C'était plus est-ce que Bush avait raison, est-ce que Irak avait raison, c'était qu'est-ce que Dieu dit sur la vie. Je pense que ça devrait être notre réflexe sur tous les sujets. Essayez de nous dire que dit la Bible. Pas moi, moi j'ai moins de vision d'elle à l'autre, mais que dit la Bible. Donc je dirais pour les gens qui sont influencés par le mouvement féministe, peut-être en fait, écoute, est-ce qu'on pourrait examiner ensemble l'Écriture. Mais ça, c'est un premier travail. Mais si ça vous décourage, sachez qu'un tiers du Nouveau Testament, Luc et Acte, ont été écrits par un gars, Luc, pour convaincre un gars de l'évangile théophile. Un tiers du Nouveau Testament pour convaincre un gars. Donc, prenons le temps de convaincre une personne. C'est ce que lui dit.
Enfin, moi j'ai une question. Dans mon ancienne église, en fait, les femmes pouvaient baptiser d'autres femmes. Je voulais savoir votre opinion.
C'est très intéressant cette question. D'accord. Alors, c'est le mot, ma première réponse, c'est celle-ci. En Matthieu 18, il dit Jésus s'est approché dans la paralysie. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ma première réponse, est-ce qu'il est juste, j'en sais rien, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je crois, d'accord? C'est que, à qui parle-t-il des disciples? Donc, un disciple fait du disciple. Donc, est-ce qu'une femme peut mener une femme à Christ? Oui. Est-ce qu'une femme a le droit d'enseigner ses femmes, parce qu'il dit, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai passé. Est-ce qu'une femme a le droit d'enseigner une autre femme, dans le contexte d'une église, les lois de la liberté. Oui, mais d'accord. Alors, est-ce qu'une femme a le droit de baptiser une autre femme? Allez, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, mais c'est pas habituel. J'ai jamais vu ça. Dans nos églises, la culture dit que c'est toujours le pasteur qui baptise tout. Mais, techniquement, alors, c'est un texte narratif, je vais vous le dire narratif, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui mène quelqu'un à Christ ne pourrait pas le ou la baptiser? Moi, je pense que ce n'est pas une question d'enseignement, ni une question de prendre autorité sur un homme dans l'Église. Donc, techniquement, je pense que oui. Culturellement, c'est comme si la jupe, d'accord, une jupe, ça ne passe pas. Je pense que dans nos cultures, ce n'est pas habituel, c'est après la jupe. Donc, j'ai pour appel à vraiment m'enseigner. Mais peut-être que d'autres, peut-être que vous avez une autre opinion là-dessus, mais c'est ma réponse à chaque fois. Quelqu'un veut réagir? D'habitude, oui, mais c'est pas biblique, ça c'est culturel.
D'accord, mais je veux dire, si cette femme elle baptise, je veux dire, si elle n'est pas pasteur, elle peut baptiser aussi.
Mais je pense pas qu'elle était pasteur, elle n'est pas baptisée.
Elle était enseignante, enfin, elle avait quand même une certaine autorité au niveau des femmes. Dans notre église, on enseignait, les femmes pouvaient enseigner aux autres femmes. Voilà, elles enseignaient à d'autres femmes parce qu'elles avaient une connaissance, une compétence par rapport à la vie. Et du coup,
elle est toujours d'attribuer. Moi, ça ne me pose pas de problème personnellement. Alors, je n'ai jamais entendu, j'ai jamais entendu ça. Mais je ne sais pas, un chien comme ça, ça me paraît OK. Mais dans nos cultures, ce n'est pas du tout comme ça se passe. C'est toujours, on a des règles de baptême, d'habitude, c'est l'homme, les pasteurs qui l'a. Mais je ne sais pas d'où c'est venu. Alors, moi, par contre, ce que je fais dans mon église, si quelqu'un met quelqu'un à Christ, je fais un compromis, je n'ai jamais fait une femme. Mais j'invite la personne qui l'a amené à Christ de venir et de faire le baptême avec moi. Donc, ça honore au moins la personne qui a mis la personne à Christ. Quand il y a des femmes, alors ce que j'ai fait parfois, c'est que les femmes sont autour de baptistère, si je ne me trompe pas, mais jamais pour faire l'acte du baptême. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas de raison. C'est simplement culturel, habituel et d'autres traditions.
Oui,
c'est ça. Je
vous en prie. Si elle est baptisée, non, mais si ça
change bien, vous pouvez baptiser là. Alors, j'ai envie de répondre. C'est mon opinion. J'ai envie de répondre non. Parce que est-ce que c'est de nouveau enseigner l'homme ou est-ce que c'est prendre autorité sur l'homme? Parce que peut-être là, c'est là où est-ce que chaque église va tirer sa barre. Je pense que même si alors, je vais peut-être être hypocrite. Même si je disais que c'est peut-être possible, dans notre église, ça ne passe pas. Donc c'est là où on tirerait la barre, je pense. Par contre, je connais une situation, il y a un couple qui se sont convertis, ils sont allés en Israël. Et alors, ils se sont trouvés au Jourdain, ils n'étaient pas baptisés, ils n'étaient pas dans une église, ils étaient tout nouveau convertis. Alors ça, c'est étaient là, il y a tous les gens qui se baptisaient dans les Romains, donc ils se sont dit, mais écoute, chérie, je te baptise, et ensuite tu me baptises. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils sont allés dans le Jourdain, lui a baptisé sa femme, et ensuite sa femme a baptisé lui. Ils sont remis, ils nous ont dit, mais écoute, pour les baptiseurs, c'est de baptiser mutuellement dans le Jourdain. Ils ont dit, ça passe ou ça passe pas? Je me suis dit, voilà, je me suis dit, bon, écoute, ça passe. Je sais pas, voilà, donc je connais un exemple où une femme a baptisé un homme, c'est une femme qui a baptisé son mari dans le jour. C'est vraiment pas la norme, mais est-ce que ça passe? Je pense que c'est le plus. C'est très bonne question, oui.
Oui, mais tu veux dire que Jésus il a dit à ses disciples d'aller, de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser au nom du Père et du Fils de l'Esprit. Alors, moi, je sais pas, ma première chose, c'est que la personne qui amène une autre personne à Christ, lui, il a autorité pour baptiser, puisqu'il a amené la personne à Jésus-Christ. Et admettons que ce soit ses derniers moments, et que cette personne, par confession, il doit mourir par la suite. S'il n'a pas été baptisé à ce moment-là, ça aurait été quelque chose de pas très normal. Donc, moi, pour moi, ce serait logique que bon, la personne qui, quand elle a reçu la parole de Dieu, quand elle a cru, s'il y a moyen de baptiser, est-ce que baptiser correctement, quelle que soit la personne.
Mais c'est pas normatif.
Non, c'est pas normatif.
C'est pas normatif. C'est comme le brigand sur la croix, souvent on fait la référence par rapport au baptême. Mais à ma connaissance, le brigand n'est pas descendu de la croix pour se faire baptiser. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le ciel. C'est pour ça que je me dis des fois, et c'est bien de l'avoir noté, il y a des textes qui sont dans la Bible mais qui ne sont pas normatifs, et souvent, ce que je trouve dommage, c'est qu'on en fait une généralité, et moi ça me blesse dans le sens que, des fois simplement si on prenait le temps de lire le contexte des textes, et c'est bien d'avoir rappelé ça aujourd'hui, moi ça, c'est une bonne chose que tu as fait John, c'est de rappeler que le contexte a toute sa valeur, et que souvent, en lisant simplement le texte, eh bien, on comprendrait que oui, des fois, on fait une généralité sur des choses qu'en réalité, on ne voit pas ça dans la parole de Dieu, quoi. Voilà.
Je pense que c'est vraiment vrai, mais je pense qu'en effet, sur ce point, est-ce qu'une femme peut baptiser un homme, c'est pas normatif, mais c'est pas la bonne nouvelle. La seule question, c'est est-ce que c'est autorité dans le cadre d'une église locale? C'était ça la réponse. Dans un baptême d'église, justement où il y a une réunion mixte, ce que ça communiquerait qu'une femme communique un homme est plus fort, donc l'idée d'autorité, que si une femme baptise quelqu'un dans l'église. Je pense que l'histoire du contexte est très importante. Je vous donne un exemple du contexte, après je vais vous montrer. Ça se passe bien avec l'église. Ah, j'ai des problèmes avec ma belle-mère. J'ai des problèmes avec ma belle-mère, mais la Bible nous dit je peux tout par celui qui me fortifie. Et je sais que par Jésus-Christ, je peux même supporter ma belle-mère, la Bible le dit. Vous avez entendu ce que l'on a dit? Alors, c'est pas faux. Mais c'est pas le bon verset. Parce que ce verset qui dit bien qu'à 13, je puis tout par celui qui me fortifie, n'a rien à voir avec ma belle-mère. Le contexte, c'est ce que c'est? C'est l'argent. L'argent. Paul dit, je peux vivre avec beaucoup, et je peux vivre avec Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux vivre avec beaucoup et avec peu. Donc, le contexte est quand même intéressant, et parfois on peut sortir un verset qu'on aime bien, pour le lance dans n'importe quoi. Alors ça prêche bien, mais c'est pas bibliquement juste. Donc il faut vraiment toujours bien regardez le contexte, de ne pas prendre des versets comme ça, il est bien normatif, s'il n'est pas le cas. Bonne réflexion. Oui.
Par rapport au texte que je viens de lire, après, moi, je pense que c'est sûr que c'est le contexte, mais je pense que cette phrase-là aussi, elle peut aussi, on peut la prendre aussi en dehors du contexte, puisque Christ nous fortifie en
tout. Oui, alors c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas faux. Mais c'est pas juste non plus, c'est-à-dire que c'est pas la meilleure utilisation de ce verset. Parce que le verset est très gêné par rapport à l'argent, mais c'est vrai que le principe est que, ben, avec Christ, on peut supporter beaucoup de choses dans la vie. Donc il y a un principe à dégager, mais on lance ce verset un petit peu trop facile. C'est comme le principe dans Acte 2:45 qu'on disait sur la générosité. Ben, cela s'est dit qu'ils partageaient leur vie avec tout le monde. Nous, on peut dire, ben voilà, nous devrions être généreux. C'est le principe qui ressort de ce texte. Mais ce n'est pas un commandement. Un commandement, il fallait tout vendre. Autre question ? Ça fait longtemps qu'on discute, hein, vous êtes vraiment très très patient. Autre question ?
Non. Oui. Ce matin, tu as dit que tu dirais quelques mots sur tes enfants.
Ah oui,
oui. Quelle bonne mémoire.
Écoutez, alors, nous avons trois enfants. Notre aîné vient d'avoir 30 ans. Il est venu d'affaires. Il a vu que faire un docteur en Irak. Il travaille pour une société américaine qui aide les compagnies américaines à faire du business avec une compagnie marocaine. Et donc, ça fait 4 ans qu'il y est. Et aujourd'hui, là, il est en voyage d'affaires. Il est dans l'Afrique du Sud. Donc, il aime beaucoup l'Afrique, ces pays-là, et il essaie de voir comment il peut continuer, disons, une carrière de business là-bas. Donc, ça, c'est très sympa. Il est ingénieur à Tours, il est ambassadeur pour Christ dans une église engagée à Casablanca, donc c'est super. Notre fille, elle habite aujourd'hui à Genève, donc elle est flûtiste, musicienne, passe par une période très difficile, elle a un petit peu, cherche un petit peu sa voix aujourd'hui. Donc elle est à Genève, elle se demande si elle va rester à Genève. Elle a vécu déjà aux États-Unis, elle a vécu à New York, elle a vécu à Paris, donc elle a pas mal voyagé, mais elle cherche un petit peu à se positionner quelque part. Alors on attend un petit peu voir où ça va diriger. Elle a 27 ans. Et ensuite, notre troisième, James, lui, il a 21 ans. Non, 23 ans, 24 ans. Parce qu'il mesure 1m97. Très très bon. Il a joué basket à Chicago dans son université là-bas. Et ensuite, il est devenu steward avec une compagnie Emirates. Donc, ils sont basés à Dubaï. Donc, il est dans les avions. Il est dans le café, le type. Et il est basé à Dubaï. Et ça fait maintenant 3 ans qu'il est avec Emirates. Et là, aujourd'hui, il est aux Philippines. D'accord ? Parce qu'il voyage énormément. Parce qu'Emirates, il voyage dans le monde entier. Et ce qui est pas mal, c'est que je vous encourage à avoir un enfant qui travaille pour les compagnies aériennes. Parce qu'on a 90% de réduction de tous les mois. On peut aller là, il y a 2 semaines, on est allé au Vietnam pour 180 euros. D'accord ? C'est pas mal, si vous avez des enfants, d'accord, vous les poussez les gens, parce que c'est vraiment intéressant pour les voyages. Alors nous, on se brouille pour beaucoup voyager, parce que je pense pas qu'il y a un jour toujours avec les fêtes, mais pour l'instant,
l'avion a de l'avenir, hein,
comment ?
L'avion a de l'avenir.
Alors, je vous ai dit, alors, je crois que c'est une minute, mais je vous ai dit que c'est vrai que la période de la vie, ben, c'est ça. Quand j'avais 19 ans, j'étais à l'université, j'étais un peu trouvé, alors j'ai décidé de prendre un sac à dos et de partir en voyage. Je suis rentré à Genève, et là, j'ai pris toutes mes économies, et pendant 6 mois, j'ai pris un sac à dos, j'ai dit, puis je suis une hache, tout ça. Et je suis parti de Genève, et j'ai traversé donc la Suisse, Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Nouvelle-Zélande, Grèce, Israël, Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan, tout en bus. Alors, 6 mois, je suis arrivé à New Delhi, puis j'ai rencontré un missionnaire dans la rue, et il a ouvert sa Bible en langue française, il m'a dit, John, tu as droit en enfer, tu as besoin de te repentir, Jésus t'a pardonné tes péchés, repends-toi, crois en lui, il va te sauver. Alors j'ai dit, ok. Donc là, le 2 novembre 1976, à New Delhi dans la rue, j'ai demandé à Jésus-Christ de devenir mon sauveur et mon Seigneur, et alors ma vie a complètement changé, comme ils ont un autre, tout a changé, mes droits terminés, et là j'ai commencé à être amoureux de la parole de Dieu, et je suis revenu, j'ai terminé mon université, mais j'ai réalisé très vite que ben voilà, cette conversion était radicale, et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question si le Seigneur m'appelait à être pasteur, et surtout à Genève. Parce que je me suis dit, putain, quoi, Jean Calvin avec lui à Genève, son ministère 25 ans à Genève, j'avais parlé à Genève, j'avais à peine entendu parler de lui, j'avais jamais entendu l'évangile, je me suis dit, c'est incroyable. Alors j'ai demandé au Seigneur si je pouvais retourner un jour à Genève. Alors j'ai finalement, Stuart, j'ai rencontré mon épouse qui était au Tesler, on est parti en Californie, j'ai fait mes études de théologie, puis ensuite, le Seigneur nous a apporté et finalement, à Genève, pendant 22 ans, et le Seigneur m'a donné exactement ce que je voulais faire, être pasteur à Genève, c'est incroyable. Et voilà, ça fait vraiment 22 ans. Ça, c'est la vie. histoire de mon témoignage, comme j'ai dit, que j'avais vu le 2. Alors voilà. Merci. Donc maintenant, je crois que vous avez tout de nous. Il est pile poil 3h, 4h37, exactement là pour l'éternel, n'est-ce pas? Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous.